Bonsoir et bienvenue dans un monde nouveau, le magazine qui prend le pouls de notre époque. La France a été confrontée cet été à une pénurie de médecins dans les hôpitaux pour faire face à la quatrième vague de l'épidémie du Covid-19, mais aussi en ville. Pour bon nombre de médecins généralistes, trouver un remplacement cet été a tourné au casse-tête. Beaucoup ont dû se résoudre à fermer leur cabinet. Dans Journal d'un médecin de ville, un documentaire qui sera diffusé demain soir sur Arte, le réalisateur Nicolas Mesdome filme le quotidien d'un médecin généraliste en banlieue parisienne qui s'apprête à partir à la retraite comme l'un des derniers représentants d'un monde révolu.
À part les urgences, dans le coin, il n'y a plus personne qui fait du sur-rendez-vous. Vous êtes fou pour faire ça.
Un film sensible et émouvant, le réalisateur Nicolas Mesdome est notre premier invité ce soir. Un monde perdu, c'est aussi le point de départ du dernier roman de Céline Minard, Plasma, d'ores et déjà présenté comme un incontournable de la rentrée littéraire. Dans ce roman monde, l'autrice imagine de possibles mondes futurs après la grande catastrophe qui a fait de l'être humain un rescapé, condamné pour survivre, à quitter la Terre ou à évoluer.
Comme c'est beau. Et dire que dans cette forêt de la mort, sans masque, mes poumons pourriraient au bout de 5 minutes.
Dans le nouveau monde de Céline Minard, comme chez Miyazaki, le sublime côtoie la mort et la destruction dans un poème hybride et une exaltation du vivant en forme de mise en garde. L'écrivaine est notre deuxième invitée ce soir.
France Inter. Sonia Khironi. Un monde nouveau.
Les blessures du monde, mais aussi l'espérance, sont ce soir dans Un Monde Nouveau sur France Inter.
Ne me parle pas de sentiments. Je sais déjà qu'on se mentirait. T'es bien meilleur quand tu fais semblant. Derrière l'écran, plutôt qu'en vrai. Tu dis j'aime, qu'est-ce que t'aimes vraiment. Tu confonds le cœur et l'intérêt. Si tu veux jouer au compliment, fais-le plus fort, je le fais. À tes yeux des aimants, n'oublie jamais que je suis tout à toi, autant qu'à eux, vivement. Identique, c'est la photocopie. On ne peut compter que sur nos doigts. Je me lève à l'heure du photocall pour être sûr que tu me vois.
We'll be right back. L'impératrice revient avec Hématome, titre issu de leur deuxième album Takotsubo, sorti en mars dernier en partenariat avec France Inter. L'hématome, explique l'impératrice, c'est à la fois le remède et le symptôme du cœur brisé. Lui aussi répare les corps et les âmes brisées. Il connaît tous ses patients par cœur. Il a vu grandir leurs enfants, suit parfois aussi les petits-enfants. Maladies saisonnières ou chroniques, petites ou grosses déprimes, accidents de la vie en tout genre, rappel des vaccins et bien plus. Au fil des ans, il a aidé chacun à tout affronter. Et puis un jour, après 30 ans de bons et loyaux services, il part à la retraite. Il se prépare à laisser ses patients à son jeune successeur. Et c'est là que commence le très beau documentaire qui sera diffusé demain soir sur Arte, Journal d'un médecin de ville. Bonsoir Nicolas Mesdom.
Bonsoir.
Vous êtes le réalisateur de ce documentaire et vous êtes aussi le fils du bon docteur Mesdom. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce documentaire, de filmer votre père dans son cabinet avec ses patients dans les derniers mois de son activité?
Alors c'est une envie qui est née il y a très très longtemps, depuis qu'on est tout petit. C'est vrai qu'on entend à table mon père parler des patients, ma mère étant aussi médecin, du coup ils ont partagé une quantité assez importante de patients, et ils en parlaient constamment. C'est vrai que pour nous c'était assez fascinant d'imaginer ce hors-champ, parce que bon, évidemment on n'avait pas accès. J'ai été le seul enfant à ne pas entrer dans ce cabinet, les autres ont fait des stages de quatrième, avec mon père. Et en fait, depuis que j'ai commencé à vouloir faire du cinéma, je me suis dit que j'avais très envie de filmer mon père, de filmer ça, ce travail-là. Ma mère était en gynéco, du coup l'affaire était réglée, et du coup c'était l'envie de filmer, d'entrer et d'assister à ce lien qui me paraissait très mystérieux et très très fascinant en fait de l'extérieur, sans en mesurer du tout l'intensité en fait. Et quand je lui en ai parlé, il a été très surpris. Et puis je pense que d'annoncer tout de suite qu'on va entrer avec une caméra, filmer ce rapport qui est aussi intime, aussi fragile, aussi nécessairement c'est pas possible quoi. Enfin, je veux dire, tout de suite il m'a dit que c'était il m'a pas dit non, mais il m'a fait sentir que c'était non. Et je me suis un peu engouffré dans la brèche on en a parlé assez longtemps. Puis dans un premier temps, je suis venu voir les consultations. Et en fait, là, jusque-là, j'avais des doutes. Et là, pour le coup, cette première journée de repérage, il n'y en a qu'une seule. Ça a été l'élément déterminant, en fait, qui m'a poussé à faire le film. C'est-à-dire que c'était tellement puissant ce qui se passait. Et en fait, je pense que 40% des consultations parlaient de notre monde, c'est-à-dire de façon extrêmement puissante et à un endroit qu'on ne voit jamais, ou qui fait l'objet d'énormément de fantasmes, d'énormément de on-dit, d'énormément de... Et là, c'était le réel en face, quoi. Enfin, d'un coup, j'avais vraiment ce sentiment que le monde se racontait de façon extrêmement intense, extrêmement puissante, et puis avec une très grande simplicité, c'est-à-dire que là, on était dans l'intime d'une relation. Et effectivement, il y a eu ce premier choc qui m'a poussé à faire le film, et le deuxième qui a été de me rendre compte en fait que il avait des liens quasi familiaux, enfin des liens de cet ordre-là, qu'on peut qualifier de cet ordre-là, avec beaucoup de personnes, quoi.
Et ça, vous le soupçonniez pas?
Il en parlait. Je savais qu'il était extrêmement attaché. Je savais qu'il était qu'il est extrêmement engagé auprès de ses patients et qu'il y a un lien affectif. Si je le sentais, pas au point de ce qui se passe dans le film à la fin où on prend la mesure que pour certains, bon, c'est pas pour tous les patients comme ça, mais pour certains, c'est vraiment un déchirement. Mmh. Enfin, ce départ, c'est terrible, quoi.
Alors votre film, il est bouleversant du début jusqu'à la fin, et dès les premières minutes, on voit défiler dans le cabinet des êtres abîmés par la vie et par le travail, comme cette jeune femme, jeune auxiliaire de puériculture qui travaille dans une crèche, et on va écouter un premier extrait.
Bon, tu craques. Ah mais non, sois pas désolé, allez, ça fait du bien, quand il faut que ça sorte de toute façon. Hein. Essaye de m'expliquer ce qui t'arrive.
Le travail.
Tu travailles où? Toujours à la crèche
C'est ça.
Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un manque de personnel?
C'est une horreur. Bon, je suis toute seule avec 19 enfants, en sachant qu'on m'a dit hein, que s'il se passait quoi que ce soit, c'est moi qui allais devant
le tribunal. Mm-hmm. Ah, c'est ça.
La responsable. mais que j'ai pas le droit de pas les accepter. Donc j'enlève toute source de danger, chaise, table, je ferme le toboggan et je suis un poteau au milieu, quoi. J'ai craqué en réunion alors que devant mes supérieurs, en disant que moi c'était pas possible, que du coup même ma vie extérieure elle en pâtissait.
Puisque c'est lié au travail directement, je vais te faire une déclaration d'accident de travail.
D'accord.
Ça va les faire chier.
Des hommes et des femmes abîmés par le travail, vous en avez vu beaucoup dans le cabinet de votre père ?
Oui, énormément, oui. Mmh. Énormément, et beaucoup, beaucoup de gens complètement perdus l'administratif, c'est-à-dire les papiers à remplir, je pense des gens qui ont un grand besoin d'être assistés aussi, d'être assistés, c'est un très mauvais mot, mais d'être accompagnés, mmh. Voilà, dans leur parcours du combattant, que ce soit juridique, que ce soit effectivement avec leur employeur, que ce soit administratif, que ce soit... Et des gens qui s'égarent aussi complètement, qui se perdent dans ce que le monde peut avoir de brutal, en fait, par rapport à des gens qui sont pas forcément armés, en fait, pour réussir à... C'est marrant parce qu'on avait une expression avec ma productrice Eve qui est assez belle, en fait. C'est qu'en fait je pense que le médecin aide ces gens à se relever de chocs qui les ont mis à terre ou qui menacent de les mettre à terre, et qu'en fait l'enjeu de tout ce qui joue dans ce cabinet, c'est justement de se relever ou de rester debout, quoi. Enfin, de rester. Voilà, je trouvais ça très parlant.
Mmh. Il s'apprête à partir à la retraite, et donc on le suit alors qu'il est en train d'organiser sa succession. C'est un jeune médecin qui avait déjà fait des remplacements dans le cabinet, qui est en train d'achever sa thèse, qui va le remplacer. Et on comprend rapidement qu'il n'aura pas du tout la même manière de travailler.
Si on passe entre deux...
Comme des fois vous faites.
Ça, les jeunes, ils le font beaucoup moins que... Alors, pourquoi ? Moi, je me suis installé il y a plus de 35 ans. On courait un peu après le patient, parce qu'on était très nombreux. On était, je vais pas dire clientéliste, mais il y avait quand même un petit peu de clientélisme parmi les médecins. Aujourd'hui, tout s'est inversé. C'est-à-dire que c'est le patient qui est demandeur, c'est plus le médecin. Et donc, le service qu'on pouvait offrir, et qu'on a eu l'habitude d'offrir, moi, quelqu'un qui vient, qui a un problème entre deux, oui, je prends, parce que j'ai été habitué comme ça. Et puis, en plus, ça fait plaisir. Enfin bon, voilà. C'est un service rendu, je trouve que c'est quand même sympa. Surtout quand on connaît bien les gens, c'est quand même bien.
Ça, ouais.
Les jeunes ne fonctionnent pas de la même façon.
Ouais, plus de patients entre deux rendez-vous, plus de consultations ouvertes sans rendez-vous, plus ou quasi plus de visites à domicile. Il a cette formule qui résume tout. Aujourd'hui, ce sont les patients qui sont en demande. Le rapport s'est inversé.
Complètement. Oui, le rapport s'est inversé. En tout cas, enfin, je sais pas si je peux parler ou prétendre parler de l'ensemble du territoire. Je pense qu'effectivement, d'après ce qu'ils en disent eux, il y a un effet comme ça. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la société, de l'ensemble de la société, qui est un engorgement de patients dans certains territoires. Et je pense que c'est certains territoires qui sont touchés. Mais en ce qui me concerne, moi, je peux parler principalement que de Romainville. Et là, ce à quoi j'ai assisté avec la succession qui est très très tendue comme ça, très, c'est qu'en fait, à aucun moment j'ai pensé que le successeur était problématique. Et d'ailleurs, je pense que mon père ne pensait pas que le successeur était problématique. Il lui fait confiance. Seulement, en fait, il se rendait compte progressivement que ce successeur devait faire avec le système dans lequel il est. C'est-à-dire que, effectivement, comme il y a un afflux de patients considérable, et comme les consultations ouvertes deviennent complètement démentes, c'est-à-dire que le cabinet était totalement saturé de personnes, et il y avait la queue qui continuait à l'extérieur, ce qui était invraisemblable. Voilà. Et que les médecins finissaient à pas d'heure, et qu'effectivement, l'un des associés aujourd'hui, il est dans un état de burn-out. Enfin voilà, il vient de faire un burn-out. Donc effectivement, je pense que tout simplement, il se protège et qu'il a raison. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'accorder la même attention et d'avoir le même suivi, la même qualité de soins pour l'ensemble des patients. Mmh.
Alors les semaines passent et le moment fatidique arrive où il faut se dire au revoir, la dernière consultation. Et là, c'est extrêmement émouvant. On voit certains patients qui viennent, qui ont pris rendez-vous en fait juste pour lui dire au revoir. Et votre père joue le jeu et vous avez réussi à filmer ça de manière très émouvante et avec beaucoup de pudeur.
Mais vous passez
me voir
de temps en temps.
Après, si j'ai le temps, ça va dépendre de ma vie personnelle ou ce que j'en suis, comment je vais organiser les choses. Mais c'est vrai que le cabinet, je n'y reviendrai peut-être pas souvent.
Non, le cabinet, je m'en fous du cabinet, moi.
C'est bien.
C'est vous. Je suis obligée d'aller.
Je vous souhaite plein de bonnes choses.
Moi aussi, je vous souhaite une bonne retraite.
Merci.
Pas simple hein, de quitter cette patientèle avec laquelle se sont noués des liens de respect et souvent d'affection, comme vous le disiez tout à l'heure. Et le fait de quitter le cabinet a dû être très compliqué pour lui humainement. On le sent très ému. Oui. À la fin, comment est-ce qu'il va aujourd'hui ?
Il va très bien. Il va très bien. Je pense qu'il continue à. En fait, je voudrais pas prétendre que le film l'a aidé, hein, mais je crois qu'on. Il y a eu un accompagnement qui fait que quelque part on a partagé aussi cette. Cette forme d'amertume, parce que je pense qu'il a quitté sa patientèle en n'étant pas sûr de ce qu'elle allait devenir, oui. Tout simplement parce que certains patients ne pouvaient pas continuer à aller voir le successeur, enfin voilà, et que la masse de patients allait un peu, heureusement il y avait un successeur, mais risquait de partir un peu tous azimuts, mmh. et qu'effectivement les patients qui habitent à 35 km ou 40 km, ils devraient se débrouiller autrement, voilà, c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans le cours du film.
Merci. Oui.
Je vous en prie.
Merci beaucoup. Nicolas Mesdome, journal d'un médecin de ville. Ça sera diffusé donc demain soir, mercredi à 22h25 sur Arte. Et c'est déjà, d'ores et déjà, disponible sur arte.tv. Dernière question. Question rituelle de cette émission. Quel est selon vous l'objet du futur ou l'objet qui manque au futur ?
J'ai pas mal réfléchi à cette question qui est pas simple du tout. Et du coup, j'ai une réponse. En fait, je pensais à un objet, je pensais au film, et je me disais qu'en fait, ce qui m'avait beaucoup ému, moi, dans le film, c'était de voir à quel point cet espace du cabinet est investi, en fait, par toute une population qui venait, justement, tout un tas de gens qui venaient, qui se mélangeaient, en fait, et qui étaient, il y avait un vrai métissage social, pour utiliser des grands mots, quoi. Et qu'en fait, c'était extrêmement riche et extrêmement fort à filmer. Et que peut-être que l'objet qui manquerait à demain, c'est un lieu comme celui-ci, c'est-à-dire un lieu qui favoriserait le lien plutôt que un lieu ultra sécurisé ou qui un lieu de contrôle, quoi, un lieu comme on voit qu'aujourd'hui l'espace public est particulièrement contrôlé, enfin fait l'objet d'un contrôle de plus en plus renforcé. Voilà, mon vœu ce serait de favoriser des lieux comme celui du cabinet.
Merci beaucoup, Nicolas Mesdome, journal d'un médecin de ville, donc demain soir sur Arte.
Merci.
Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Sei ancora tu.
purtroppo l'unica. Ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Purtroppo l'unica, ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Disperazione, gioia mia, sarò ancora tuo, sperando che non sia follia, ma sia quel che sia. Abbracciami amore mio, abbracciami amor mio, che adesso lo voglio anch'io. Ancora tu, non mi sorprende lo sai. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me e ci scappa.
Ancora tout, le tube de l'été 76 en Italie, le grand Lucio Battisti faisait danser tout un pays avec cette chanson où il retombe sur son ex, encore toi, entre surprise et embarras et la passion qui ressurgit.
Un monde nouveau. Sonia Chironi sur France Inter.
On continue d'écrire le monde nouveau sur France Inter avec François Vais. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le rédacteur en chef de Zadig, la nouvelle revue trimestrielle qui raconte toutes les Frances. Et Myriam Levin. Bonsoir Myriam. Vous êtes cofondatrice et rédactrice en chef de Chic, le média inclusif et générationnel des combats d'aujourd'hui. François Vais, on va commencer avec vous. Tout au long de l'été, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à travers l'Hexagone. Ils étaient encore 175 000 samedi dernier à dire leur opposition au vaccin et au pass sanitaire. Leur colère protéiforme rappelle à certains égards celle des Gilets jaunes et plonge ses racines dans une longue série de mouvements qui ont marqué notre histoire. À quand faut-il remonter, François, pour retrouver une grande colère populaire qui a marqué notre pays en profondeur et a été suivie de beaucoup d'autres réponses?
Écoutez, si on se livre à une histoire de la colère comme l'a fait l'essayiste David Jaiz pour nous, on s'aperçoit que cette colère, c'est une des passions démocratiques françaises par excellence. Si les charivari, les jacqueries, les révoltes n'ont pas manqué durant l'Ancien Régime, c'est avec la Révolution que la colère du peuple fait son entrée fracassante sur la scène de l'histoire. Et depuis, ce sentiment très mystérieux que constitue la colère, qui est un état de transe et d'élan collectif parfois irrépressible, secoue notre pays plus souvent qu'à son tour. On pense aux révolutions de 1830, de 1848, à la Commune de Paris, bien sûr, mais plus près de nous, aux grandes grèves après la Libération ou à la révolte de mai 68.
Mais cette colère populaire ne débouche pas toujours sur un changement politique. Que lui faut-il pour y aboutir?
Pour durer, la colère a besoin d'une force de proposition, d'une organisation et puis d'un espoir commun. On l'a bien vu avec la crise des Gilets jaunes qui n'a pas pu se donner de leader ni de programme. Et aujourd'hui, cette colère des anti-vax, des anti-pass, des anti-systèmes, des conspirationnistes de toutes sortes, elle exprime du désarroi et de la haine, mais on ne sait pas très bien de quoi elle est porteuse.
Oui, ce sont des mouvements auxquels on assiste ces dernières années qui sont assez difficiles à saisir.
Oui, parce qu'ils sont extrêmement différents. Si on prend la lutte contre le harcèlement que symbolise MeToo, si on prend les grèves contre la réforme des retraites, maintenant les manifestations d'opposition au pass sanitaire, on peut vraiment se sentir désorienté. C'est pourquoi le nouveau livre du professeur Pierre Rosanvallon, qui s'intitule « Les épreuves de la vie » et qui va paraître là ce jeudi aux éditions du Seuil, vient à point nommé parce qu'au fond, il nous dit que les Français sont soumis à quatre types d'épreuves. L'injustice, le mépris, la discrimination, l'incertitude. Ça fait beaucoup. Face à toutes ces préoccupations, toutes ces inquiétudes, il peut paraître assez sain, d'une certaine façon, que certains Français s'expriment, pas simplement sur les réseaux sociaux, mais manifestent aussi pour une partie d'entre eux.
Et dans certains cas, François, les frustrations des Français peuvent être productives et donner lieu à des initiatives qui sont source d'espoir. C'est ce que vous vous efforcez de mettre en lumière aussi.
Ben oui, parce que la colère, finalement, elle peut amener certaines personnes à se prendre en main et à agir par elles-mêmes. Beaucoup de Français ont à cœur de réparer leur France avec leurs propres moyens. Dans le premier numéro de Zadig qu'on a fait au printemps 2020, on avait des enseignants, des infirmières, des entrepreneurs qui venaient en aide aux autres d'une manière très concrète. Mais ensemble, ils essayent de dessiner à leur manière un nouveau monde.
Merci beaucoup François. François Vert, rédacteur en chef du magazine Zadig, qui publie dans chacun de ses numéros une chronique sur l'histoire de ces passions françaises. Justement, et le prochain numéro de Zadig sortira bien la semaine prochaine, mercredi prochain, le 1er septembre. Myriam Levin, vous êtes cofondatrice et rédactrice en chef de Chic. Et c'est bientôt la rentrée. Et apparemment, Myriam, on n'a pas vraiment envie de quitter les vacances ou le télétravail pour retourner au bureau.
Oui, déjà qu'en général, à cette période de l'année, on a très envie de tout plaquer pour s'installer sous une paillote et vendre des cendriers en forme de coquillage. En 2021, on est particulièrement peu à avoir envie de retourner en réu alors que le présentiel fait peut-être son grand retour. Bon, bien sûr, il faut relativiser le phénomène du télétravail qui concerne surtout certains secteurs d'activité, mais cette pratique est en train de s'installer dans nos vies professionnelles pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur étant par exemple l'essor du nomadisme qui permet de travailler entre Sète, Paris et Madère. Le pire étant la surenchère des visioconférences qui fait parfois regretter la réunionite de la vraie vie. Un an et demi de pandémie oblige toutefois les entreprises françaises à repenser leur organisation et selon le ministère du Travail, elles seraient 30% à avoir déjà prévu de conclure un accord sur le télétravail.
Et alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ?
Alors comme toujours, ça dépend pour qui. Les jeunes qui vivent dans des logements exigus, particulièrement à Paris, et qui vivent plus souvent seuls, sont demandeurs d'un retour au bureau. C'est là que se nouent certaines amitiés et que se construit un réseau qu'on n'a pas quand on débute. Les mères de famille aussi regrettent une accumulation de leurs tâches quand elles travaillent de chez elles, réussissant moins bien à séparer la vie privée de la vie professionnelle que leur conjoint. Mais si avant l'été tout le monde était optimiste sur un semblant de retour à la normale, le variant Delta va peut-être nous obliger à être patients avant de retrouver les fameux séminaires du monde d'avant. Petit rappel avec cet extrait.
Maëva Capucin, responsable des stocks. Moi, ce que j'attends de ce séminaire, c'est une amélioration des rapports humains, parce que l'atmosphère est devenue vraiment détestable au sein de cette entreprise, et ce malgré les beaux discours hypocrites des uns et des autres.
Ah ouais. Et c'est elle qui dit ça. Et toi, tu la recadres pas, Philippe. Tu trouves ça normal qu'elle bave du sucre sur les collègues?
Mais pourquoi tu te sens visé, Jean-Claude? Hein? Il faudrait pas parler des problèmes?
Mais laisse tomber, comprends rien.
Mais attends, c'est ça ta solution?
Non, mais qu'est-ce qui te prend de faire ton agressif, là, Philippe? Qui c'est qui rend l'atmosphère détestable ici? Hein, Jean-Guy?
Extrait du séminaire, ce film de 2009 qui était adapté de la série Caméra Café. Les séminaires et les pots de départ sont-ils en voie de disparition, Myriam?
En ce moment, je le crains, même si ce genre de séminaire, c'est l'aspect de l'entreprise qui nous manque sans doute le moins. Mais malgré les bons côtés du télétravail qui nous fait gagner en efficacité et en liberté, on pourrait bientôt être nostalgique d'une vie de bureau qui a été complètement mise sur pause par la pandémie. Aux États-Unis, des sociétés comme Facebook et Amazon viennent d'annoncer qu'elles repoussaient le retour au présentiel au mois de janvier pour cause de variant Delta. Et en France, on attend les prochaines annonces du ministère du Travail qui doit se réunir dans les jours qui viennent à ce sujet. Face à l'incertitude, de plus en plus d'entreprises prennent les devants en réduisant la taille de leurs locaux pour faire baisser le loyer. Et les salariés sont des millions à déménager. Le dernier baromètre LinkedIn publié en juillet révélait que 17% des Parisiens avaient déserté en 2 ans et que les grandes gagnantes de cet exode étaient Marseille, Montpellier et Rennes. Travailler loin pour travailler mieux et peut-être même moins, c'est une question qu'on n'a pas fini de se poser.
Non, merci beaucoup Myriam Levin. Je rappelle que vous êtes cofondatrice et rédactrice en chef de Tchik et vos articles sont à retrouver sur le site des Inrecuptibles et chaque mois en kiosque. Merci à vous également François Vey, rédacteur en chef de Zadig Magazine. Merci d'avoir passé cet été avec nous dans Un Monde Nouveau sur France Inter.
Merci.
Grand merci à vous.
Elle est reconnue comme l'une des voix les plus originales de la littérature contemporaine. Son 12e roman qui vient de paraître, Plasma, aux éditions Rivage, est déjà considéré comme un incontournable de la rentrée littéraire. Bonsoir Céline Minard.
Bonsoir.
Le réalisateur Bruno Dumont était à votre place hier et je lui ai demandé s'il se sentait responsable de l'avenir, s'il pensait avoir un rôle à jouer en tant que réalisateur dans la construction du monde nouveau. Sa réponse était positive. Pour lui, le cinéma doit être utile à nous éveiller, nous éclairer dans un monde qu'il décrit comme étroit et fermé. Et vous, Céline Minard, est-ce qu'en tant qu'écrivaine ou autrice, je ne sais pas s'il y a un mot que vous préférez, est-ce que vous avez envie d'être utile? Est-ce que vous cherchez à être utile?
Utile?
Oui.
Ce serait bien, oui. Mais je ne sais pas si je pourrais répondre de l'avenir. En tout cas, ce qui me semble assez important, c'est d'ouvrir des... C'est toujours la même chose, c'est d'ouvrir des espaces nouveaux et des espaces où d'autres choses que celles qu'on vit maintenant seraient possibles.
Et on va ouvrir des espaces nouveaux avec vous ce soir, Céline Minard, et parler de ce dernier roman, Plasma, qui vient de paraître. Céline Minard, invitée ce soir d'Un Monde Nouveau sur France Inter. Party Like a Human, un avant-goût du nouvel album de General Electric, un groupe d'électropop français qui sortira en septembre en partenariat avec France Inter. Dans le nouveau livre de Céline Minard, Plasma, l'être humain n'est pas vraiment à la fête. Pour son 12e roman paru la semaine dernière aux éditions Rivage, vous imaginez, Céline Minard, un univers ou des univers post-apocalyptiques où les humains ont été condamnés à l'exil extraterrestre ou à tenter de survivre dans un monde où ils ne dominent plus rien ou plus grand-chose, ni les terribles incendies, ni les gigantesques éruptions volcaniques et toute une série de catastrophes dont on comprend qu'elles se sont enchaînées. Un livre-monde où se mêlent passé, présent, réel, virtuel, en forme aussi de manifeste écologique et de mise en garde, qui nous est adressée.
De mise en garde, je crois qu'on n'en a plus besoin là. Je pense que les catastrophes ont eu lieu ou sont en train d'avoir lieu. Et peut-être s'il y a quelque chose qui colle vraiment à l'actualité dans ce livre, c'est qu'en fait on est au milieu de l'explosion. C'est pas encore tout à fait retombé, je crois. C'est une série de morceaux arrachés au peut-être même monde, mais en tout cas on est suspendu, comme on l'est en ce moment en fait, en plein air.
Cet univers apocalyptique, on comprend qu'il est le résultat de l'action humaine et de l'aveuglement des humains qui jusqu'au bout ont continué et sont arrivés dans le mur.
Oui, mais il y a aussi dans le livre des essais un peu bizarre, où les humains se retrouvent avec des formes et des capacités peut-être supérieures à celles qu'on a maintenant, et pas forcément par des actions tout à fait volontaires. Donc il y a en jeu aussi une espèce de force de métamorphose du vivant qui nous dépasse en tant que preneur de décision.
On voit dans ce livre des miliciens qui sont pressés d'exécuter les ordres, écrivez-vous, et qui tentent de maintenir une illusion de maîtrise en même temps qu'un contrôle des corps. Est-ce qu'il faut y voir là aussi une référence à l'actualité ?
Ça, ce sont des vrais humains de l'ancien monde.
Et un être humain qui finalement est vraiment peu de choses, sauf s'il se décide à évoluer, c'est ça aussi la leçon ?
C'est peut-être ça aussi la leçon. La leçon, c'est que dans ce temps de l'explosion, il y a peut-être des choses à faire avec des bouts de ficelle qui nous restent quand même dans les mains et de relier des choses qui n'ont pas à être reliées, mais qui pourraient l'être et donner des ouvertures, des portes d'invention, des pistes nouvelles, peut-être dérangeantes, mais viables.
C'est comme ça qu'il faut comprendre le titre aussi. Plasma, le plasma c'est un état de la matière qui n'est ni vraiment solide, ni liquide, ni gazeux. Ce sont des atomes qui sont dissociés.
C'est ça, c'est ni liquide ni gazeux, mais c'est à une très haute température. Et ça relie aussi, c'est la matière qui relie les gamètes, par exemple, et relie qui fait un tissu et un liquide de choses disparates. Et c'est un état qu'on rencontre rarement et qui est comme à la frontière de tous les autres, le gazeux, le liquide, le solide. C'est un état inquiétant.
Inquiétant. Alors, quand on lit votre livre, on pense parfois à l'univers d'Hayao Miyazaki. Je ne sais pas si ça a été une référence, une influence pour vous. On va écouter un petit extrait de Princesse Mononoke.
C'était il y a bien longtemps, dans une contrée lointaine, jadis recouverte de forêts. En ce temps-là, l'esprit de la nature veillait sur le monde sous la forme d'animaux gigantesques. Hommes et bêtes vivaient en harmonie. Mais les siècles passant, l'équilibre se modifia. Les rares forêts que l'homme n'avait pas saccagées furent alors protégées par des animaux immenses qui obéissaient au grand esprit de la forêt. C'était le temps des dieux et le temps des démons.
Le temps des dieux et le temps des démons, vous l'aviez en tête, Miyazaki, en écrivant ?
Non, je ne l'avais pas en tête, mais je l'avais certainement en fond, parce que c'est des dessins animés que j'adore et que j'ai vu beaucoup.
Dans ce monde post-apocalyptique, l'homme, pour survivre, doit apprendre des animaux aussi, y compris pour développer ses capacités extraordinaires dont vous parliez. C'est aussi, ce livre, un manifeste écologiste et une exaltation des extraordinaires capacités du vivant. Vous écrivez « Toutes les créations étaient parents et vivantes au même titre ».
Oui. Il y a toute une série d'hybridations, effectivement. On ne sait pas d'ailleurs si les humains sont tout à fait ressemblent tout à fait à ce qu'on est en ce moment. Et s'ils n'ont pas acquis des capacités un petit peu dérangeantes, par exemple de poisson, ou si la respiration sous l'eau est devenue possible, ou si le narrateur qui parle dans un certain monde est vraiment un humain ou pas. Donc je pense, j'ai beaucoup joué, enfin j'ai essayé de jouer avec la reconnaissance des formes et la non reconnaissance des formes, justement, est quelque chose qui désorienterait le lecteur, y compris dans ce qu'il pense être le plus évident, c'est-à-dire le temps, l'espace, le haut, le bas, le passé, le présent, et d'essayer de faire bouger tout ça à nouveau, de façon à ce que tout le monde soit désorienté sans être perdu. C'était ça un peu le fil directif, ça et la suspension.
Alors le roman, il est composé de 10 chapitres qui peuvent se lire indépendamment comme 10 nouvelles, et c'est la dernière en fait qui va relier le tout. Cette construction, comment elle est venue, comment vous l'avez eue en tête?
Ça, c'est toujours très difficile de répondre à ça. Je pense que je cherchais une forme de l'éclatement qui soit pas une forme fragmentaire et qui soit quelque chose qui dise, qui colle au monde dans lequel on vit. On fait partie d'une époque. Il y a 15 ans, j'ai écrit Le Dernier Monde. C'était un monde unique, tout à fait relié et tout à fait humain. Voilà, c'était une sorte de conjuration. Maintenant, on est au-delà de la conjuration. On est en plein dans l'explosion lente, qu'elle soit des glaciers, qu'elle soit des feux, qu'elle soit... Voilà. Donc, il fallait quelque chose, une structure narrative qui corresponde à cet éloignement des individus les uns par rapport aux autres, et en même temps qu'ils sont reliés d'une façon très, très, très forte, par les autoroutes, par les réseaux sociaux, par les dématérialisés, matérialisés. Enfin, on est tous hyper reliés et hyper lointains les uns des autres. De plus en plus d'ailleurs, évidemment, physiquement.
On porte toutes les deux un masque ce soir dans le studio.
Et donc je cherchais une structure comme ça, qui colle à cette réalité-là, parce que c'est une réalité, cette espèce d'éclatement qui est quand même un tout.
Il y a une exaltation du végétal, comme je le disais, de sa force créatrice, et aussi de son inventivité érotique, écrivez-vous, contrairement à la pauvreté des expériences sexuelles admises sur la planète source. Alors la planète source, dans le livre, c'est la Terre, décidément, les humains en prennent pour leur grade, y compris sur la pauvreté de leur vie sexuelle.
Ah ben oui, parce que par rapport aux plantes, c'est ridicule, cette sexualité humaine. C'est très pauvre, c'est très plat. Il y a un ou deux ou trois ou six ou même 10 possibilités, mais ça reste toujours très pauvre. À la fois dans la forme de la sexualité et dans la possibilité de la génération.
Alors on croise aussi des créatures fascinantes et hybrides, comme ces chevaux miniatures issus du clonage entre un loup et un cheval yakout, et une espèce, alors ni animal ni végétal, un plasmode myxomycète, une espèce unicellulaire qui existe bien en réalité, puisqu'on appelle ça dans le langage commun un blob, un organisme sans cerveau mais doté de capacités hors du commun qui peut faire plusieurs mètres carrés et qui serait même immortel.
Le blob, c'est une cellule géante qu'on peut couper en morceaux. Si vous coupez en 10 morceaux, vous avez 10 blobs. Et ces blobs, vous pouvez les faire sécher. Donc c'est une forme de dormance. Il peut rester ainsi pendant 2 ans. Et quand vous le réveillez, le blob est tout jeune à nouveau. Et vous pouvez faire ça ad vitam aeternam. Donc en laboratoire, avec des conditions de température et de nourriture parfaites, il est en effet immortel.
Les explications d'une chercheuse au CNRS sur le blob en 2018 sur France 3. Le blob, c'est vraiment une espèce fascinante. D'ailleurs, Thomas Pesquet en a apporté un avec lui dans la Station Spatiale Internationale pour faire des expériences. C'est aussi un peu effrayant dans le livre. Un peu beaucoup même.
Complètement effrayant.
Ça vous a inspiré? Ça vous fascine?
Ah oui, je trouve ça fascinant, effectivement. Cette espèce unicellulaire qui frise l'immortalité, parce qu'on peut aussi tuer un blob, il suffit de mettre un litre d'eau de Javel dessus. Mais, si, oui, c'est pas tout à fait immortel, mais dans des conditions, effectivement, de nourriture et de température normale, on n'en viendrait pas à bout. Donc, il y a pour nous quelque chose à la fois extrêmement désirable et complètement effrayant. Donc, jouer avec ça, et c'est informe aussi, parce que ça peut prendre plus beaucoup de forme, puisque ça se déplace. Enfin, le mouvement est celui de la digestion, de la recherche de nourriture et de la digestion, et il est tentaculaire. Donc, ça peut être super flippant.
Oui, ça l'est. Hein, je vous le confirme. Céline Minard, vous nous lisez un extrait?
D'accord.
Du livre ce soir dans le studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique.
Avec plaisir.
Oui. Les lunettes.
La salle bourdonne d'électricité. Ils sont tous là. Ils attendent dans le noir, caméra en veille, capteur éteint, à l'arrêt depuis qu'ils ont pris place un à un dans l'ordre, en silence, immobile. Galvan est debout sur la plateforme de départ, chaud, étiré. Frémissant, il attend le faisceau de lumière qui le lancera dans l'action. Il sait comment passer les 20 secondes entre le coup de projecteur et l'envol. Les yeux fermés, concentré sur la disparition progressive du phosphène provoquée par la poursuite qui le reprendra et ne le lâchera plus durant les 35 minutes à venir, si tout va bien. Roderick est en train de grimper en contrebas face à lui, il l'entend. Léna le rejoindra dans quelques secondes en pleine lumière. Elle s'appuiera sur son épaule pour saisir la barre. Ils percevront alors tous les trois le déclic unique de 3000 capteurs réactivés. Galvan respire avec application, il compte. Sa transpiration commence à imbiber son intégrale sous les aisselles, au creux des genoux et des reins. Le tissu gonfle imperceptiblement, la ventilation s'amorce. Il regrette son antique léopard en graphène qui puait bien avant la fin de l'échauffement. Mais plus aucun humain n'est autorisé à circuler sans sa gaine électro-organique connectée. Il traite toutes les données, tout le temps. Et ce n'est pas maintenant, pas ce soir, qu'il va y échapper.
Plasma de Céline Minard, votre 12e roman sorti la semaine dernière aux éditions du Rivage. Une voie à contre-courant de la littérature française qui est dominée en général par l'autofiction. Voilà, vous êtes une combattante de la fiction. Merci beaucoup d'être venue ce soir sur France Inter nous parler de ce livre qui imagine tous ces mondes nouveaux dans un mélange voilà de sublime et aussi de terrifiant. Merci beaucoup. Un monde nouveau, c'est toute une équipe. Gaëtan Collier à la réalisation, Marie Mougin et Mathieu Volant à la programmation et à la préparation de l'émission et les indispensables Lily Cornillac et Anaïs Dinarc. À la technique ce soir, Selim Guerribi. On se retrouve demain pour une radiographie de la jeunesse avec la chercheuse Patricia Loncle et le chanteur Muddy Monk. Après le journal, vous retrouvez Le Téléphone Sonne présenté par Éric Delvaux. Ce soir, comment mettre fin à la pollution sonore.